là, soyez bienvenus avec Leïla Kadoumou, Dany, Morgane, Gadignan, Guillermo, Guise, Alexandre Cominet, Guy Pasturo et notre invité Céline Salette.
Bon, déjà, les petits chatons, vous avez passé un bon week-end?
Bah,
c'est comme ça que t'appelles tout le monde,
c'est
toi.
Vrai, c'est vrai, c'est
pourquoi,
un peu bizarre dans ta bouche.
S'ils sont chatons, chatons dans ma bouche, très bien. Titre, bon c'est week-end ou pas?
Oui, très bien, ma foi.
Leïla aussi?
Ouais, vraiment. Ouais.
Exceptionnel.
Alex, ouais, je vois, mais t'as bossé les pecs, les muscles, les... Ouah, toi, dès qu'il y a un rayon de soleil, ça y est, tes pompes et tes abdos.
Ouais, bah oui.
Je voudrais qu'on ait une pensée. J'aurais qu'on ait une pensée émue pour Guillermo Guise qui est
pas
là aujourd'hui.
Ses pompes.
Une de plus.
Non,
pas
c'est pas
ça. Depuis un moment.
Non, c'est pas ça. C'est que Guillermo a assisté comme la planète entière au tirage au sort du mondial.
Oui. C'est vrai.
Et donc,
obligé une nouvelle fois de vous éliminer.
Et donc, est-ce qu'on peut revenir sur une nouvelle fois
en 1928, Nagui, très belle performance
avant l'invention du football, peut-être. Mais depuis que ce sport a été inventé.
Oh, t'as vraiment la mémoire courte, ma pote. Ça n'a pas toujours été comme ça.
Et donc, pour celles et ceux qui ne suivent pas spécialement l'actualité du football, n'est-ce pas, Morgane, je vois tes yeux.
Si.
Donc, dans le tirage au sort, si la Belgique gagne tous ses matchs, si la France gagne tous ses matchs, on retombe contre la Belgique, ou ils retombent face à nous en demi-finale, encore. C'est au même niveau qu'en 18.
Tout à fait. En 1918.
Un commentaire avisé.
Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne, après la 12e fois.
T'as eu le coach, non? T'as encore des amis dans l'équipe de...
Ouais, bah, Nagui, vous m'avez envoyé des messages, j'ai transmis. Hein. Vous m'avez dit, il faut que vous jouiez comme ça, il y a une tactique et tout, donc j'ai tout transmis.
À l'Euro en 84.
Nagui m'envoie des conseils pour l'équipe belge à moi en WhatsApp
non,
et tout. Qu'est-ce que je dise, moi?
C'est pas moi qui joue. Des conseils. Je lui dis simplement, il faudrait que vous évitiez d'arriver premier pour éviter la France en demi. Mais c'est un piège, parce que si vous êtes second, vous tombez contre l'Allemagne.
Ça a été un très bon week-end, je sens ça.
Voilà, je me suis régalé.
C'est que des tableaux Excel, des trucs comme ça.
Tu peux pas savoir. J'ai fait des pronos dans tous les sens. Ce qui est fou, c'est que j'ai fait des pronostics dans tous les sens et que dans tous les cas, on gagne. C'est quand même dingue, non?
Moi, j'aime bien ces pronos.
Ouais, c'est ça. Alors, à propos de vision de l'avenir, Infinity, la série démarre ce soir sur Canal. C'est l'avenir ou la triste actualité. On va en parler avec elle. En tout cas, c'est une série de science-fiction. Céline Salette en est l'héroïne. Elle est spationaute. Quand c'est français, astronaute quand c'est américain, cosmonaute
quand c'est russe.
Et pour,
je crois, je sais plus.
Et pour les Chinois,
nôtre.
Dit...
si.
Ils n'ont pas le temps.
Si. Taïkonaute.
Ah, peut-être bien.
Oh.
Taïkonaute. Ouais. J'ai aucun mérite, c'est JB qui l'a dit.
On n'a qu'à dire, bon, dans l'espace, quoi.
Pardon?
Ils sont dans l'espace, quoi.
C'est ça.
Ils mentent.
Et ils ont besoin d'être ensemble.
Voilà.
Et c'est de là qu'arrivent les tensions. Bref, on y va pour le blind test. Qui chante ça? Guy.
C'est là.
Spacer.
Ah, joli.
En plus, je suis inexcusable parce qu'hier je suis allée voir Le Ciel de Nantes au théâtre de l'Odéon de Christophe Honoré, qui est une très belle pièce, et il y a un moment Spacer dedans m'a fait pleurer. Ah mais beauté folle.
C'est une super chanson.
Amour à Christophe Honoré, amour, Le Ciel de Nantes.
On peut revenir sur la phrase que tu as dite?
C'est une très belle chanson.
Ah, j'avais pas entendu.
C'est sympa cette chanson, Naï?
Moi, j'ai tout ce que fait Sheila, tu sais.
Mais là, c'est pas...
Nile Rodgers.
Ouais, c'est ça,
absolument.
Sheila.
Qui chante ça? Ouais, faut avouer que là, c'est un peu court.
Morgane,
oui.
Très bien. The moon. Let me
play. Dont on reparlera forcément demain avec Jean-Christophe Ruffin, parce qu'il y a du Sinatra dans le roman. Fly me to the moon. Vous êtes sûr que
tout ça va?
On veut baisser les micros des... Oh, les chatons. Mais laissez Sinatra chanter. Heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for. Ils chantent bien les mafieux finalement, hein. On ne le verra jamais assez. Qui chante ça?
Guy?
Oui.
Bowie.
Joli.
J'en ai un peut-être.
Non mais celui-là, c'est idéal. Oui. C'est Allô Tour de Contrôle, m'entendez-vous? Enfin, ouais. On est vraiment dans Infinity. Space Oddity, David Bowie, qui chante ça?
Qui?
Oui,
Jamiroquai.
Oh, c'est celui auquel je pensais. Mais moi aussi.
Parce que tu te fais pas
c'est celui auquel je pensais.
Me dis, non, je m'engage pas.
Bah ouais.
Ouais, mais c'est pas grave.
C'est pas qu'une montagne de muscles, Alexandre.
Alors que je perds rien à dire. Je perds rien à dire.
Tout Jamiroquai.
Montagne, on va un peu loin. Pour l'instant, c'est un début de colline.
Petite colline.
C'est une petite colline.
Une bosse.
Un tas.
Commence sur une bosse.
Ah, c'est bon.
Ça m'énerve. Pourquoi je me suis pas engagé?
Qu'est-ce que c'est bien ça? Plus pointu peut-être, qui chante ça? Vous avez compris, il faut qu'il y ait Space dans le titre.
Hein. Alexandre?
Oui.
Dua Lipa?
Non. Non.
Lady Gaga?
Non.
Ah. Morgan, Miley Cyrus?
Non.
Ariana Grande?
Sia? Non.
Oui, jolie avec David Guetta.
Ah si, David Guetta.
Vous m'avez dit David Guetta, j'aurais accepté aussi. Floating through space. Qui chante ça?
Qui? R.E.M. R.E.M.
Oui.
Tu l'as ou pas?
Man on the Moon. R.E.M. toi, tu veux dire aussi.
Ça fait.
Attention pour l'instant, 2 points pour Morgan, 4 pour Guy.
0 moi.
Bah oui.
0.
Bah ouais, enfin bon.
Toi ensemble. C'est normal Alexandre.
Ça, c'est... Non, c'est pas
normal. Non, il en reste combien?
C'est le dernier là maintenant. Tout se joue maintenant.
Allez, oup. Oup. Je la connais en plus.
C'est...
T'as des paroles mais il me faut l'interprète.
Space, je sais pas quoi.
Trop facile.
Space Cowboy.
C'est totalement en lien avec Infinity.
C'est un titre de comédie musicale ou quoi?
Pas du tout. C'est le nom du groupe que je vous demande.
Space Jam?
Non.
Space Cake?
Space Cake? Space Cookie?
T'as pas ça qui est en moi?
Ah, ouais, je vois pas du tout, je connais pas ça.
Space
Sun? C'est connu.
Mais oui.
Non.
Bah, ça, je connais d'il y a 10 secondes, quoi. Mais... De la première fois que vous
l'avez. Tu l'avais jamais entendu?
Non, jamais, je connais pas ça.
Ah non, mais Alex a raison, c'est un tube. Non, c'est un tube. On laisse tomber. Hein.
Je connais pas.
Le groupe s'appelle Starship.
Starship.
Et Starship, c'est le vaisseau spatial, si on traduit, donc c'est pas grave. Écoutez, ça permet à Monsieur Guillermo Guiz d'affirmer sa victoire. Et merci d'accueillir Céline Salette.
Oh oui, original. Avec Nagui.
Bonjour Céline, bienvenue à ce micro. On a énormément de choses à dire sur Infinity, que ce soit sur l'histoire en elle-même, sur la manière de tourner cette série, et presque son côté avant-gardiste. D'abord, comment allez-vous?
Ben, ça va très bien, bon. Et vous?
Très bien. C'est à la fois une série de science-fiction et une série sur le paranormal. C'est
un thriller aussi.
Oui, totalement. Ouais. Il y a une véritable enquête pour la faire courte. Un accident arrive à la station spatiale internationale. Et de cette et en même temps qu'il y a cet accident, on découvre un corps sans tête recouvert de cire sur le toit sur le toit d'un immeuble abandonné
au Kazakhstan.
Et là on se dit, est-ce que ça a un rapport, est-ce que c'est ou non un des astronautes qui a été éjecté, qui a été cramé, est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux enquêtes? Et donc il y a un policier kazakh qui va faire une enquête, et vous qui êtes normalement, qui aurait dû être à bord de cette station internationale spatiale et qui au dernier moment a une crise de panique qui a été remplacée par justement peut-être celui dont on a retrouvé le corps. J'ai rien spoilé.
Bravo Nagui. Non, c'est ça, on entre dans le récit par l'enquête avec Daniel Alchinov qui joue cet enquêteur kazakh qui trouve un corps, qui en avait déjà trouvé un autre. Et qui va essayer de savoir ce qui se passe. Et puis, dans la station spatiale internationale, effectivement, il y a un accident. Et ce pilote,
Un accident, pardon, qui est remis en cause d'ailleurs, parce que tout à l'heure on a dit que c'était la vie partagée entre Chinois, Russes, Américains, Français, et justement chacun soupçonne un peu l'autre clan en disant
le sabotage.
Non, les calculs étaient bons, les ordinateurs étaient bons, pourquoi d'un coup ils se sont mis en manuel et pas en automatique pour l'arrimage entre les deux vaisseaux. Donc la suspicion commence à naître. Il faut dire que cette série évidemment a été tournée avant tous les événements qui arrivent à notre planète, qui ont des répercussions sur cette station internationale.
Oui, c'est incroyable.
C'était une prémonition folle. On a vu récemment, d'ailleurs, les Russes et les Américains s'accueillir et se serrer la main en disant ici, c'est un message de paix que nous voulons transmettre au monde entier, ce qui a fait plutôt du bien. C'est pas exactement, on est plutôt dans une guerre froide et dans une tension dans la série.
Oui, bien sûr. Ben, cette tension, elle existait déjà avant. Hein. Elle naît de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide. Et c'est vrai qu'elle est rééditée dans la série et puis qu'elle réapparaît aujourd'hui, ce qui est complètement fou quand on y pense. Mais
alors il y a, Leïla l'a dit, une véritable enquête policière qui est menée. Faut dire que ça y va, ça dégage. Il y a beaucoup de morts dans la série. On est dans un truc de mafia et de règlement de compte à Hockey Corral comme il faut.
Il y a côté Seven quoi dans l'apparition de ces corps sans tête comme ça recouverts de cire, positionnés en hauteur comme si on était dans un rite un peu chamanique ou un truc très très inquiétant.
C'est ce qui est évoqué. Ouais. Ouais. Après il y a le paranormal et puis c'est le mélange entre les croyances des scientifiques, des ordinateurs, et on est vraiment à la pointe de la science, et les croyances d'un peuple nomade qui, lui, est dans le désert, au sol, simplement, je le dis sans aucune forme de mépris, mais à brûler des herbes, à invoquer des esprits, et à être dans quelque chose de
spirituel,
totalement, ouais, totalement différent et spirituel.
Oui, ben, je crois que c'est le paradoxe que voulaient incarner les auteurs. Je crois que eux, ils étaient complètement fascinés par ces dimensions qui existent en nous, ces dimensions qui existent dans la physique quantique. Hein, par exemple, la physique quantique parle de ces électrons qui tournent au même moment et qui font les mêmes choses à des endroits complètement différents de la planète. Il y a cette fascination pour le quantique, le mystique et le spirituel. Et puis, il y a aussi, évidemment, comment on rentre dans la série. On y rentre par l'enquête, par une chose, par le thriller, par des codes qu'on connaît plus, pour aller vers, oui, quelque chose de complètement métaphorique. La série, elle part dans la métaphore. Les questions des versions de nous-mêmes, de qui, quelle version de nous-mêmes on est, quelle version de nous-mêmes on choisit d'être.
Ouais, et ça nous ramène même à une dimension beaucoup plus petite, beaucoup plus humaine,
intime,
bien sûr. C'est ça.
Oui, bien sûr.
De l'infiniment grand, justement, pour reprendre le titre de la série, sans le Y à la fin, Infinity. Il y a l'infini, il y a l'infiniment grand, et puis il y a ce qui est indéfinissable au fond de nous.
Oui, c'est ça. C'est une série qui parle de l'invisible. Le personnage de Daniel, c'est un personnage qui est rationnel. C'est avec lui qu'on entre dans la série. Et puis, le personnage que j'incarne, le personnage d'Anna, c'est un personnage plus mystique qui échoue dans la réalisation de son rêve. C'est-à-dire, son rêve, c'est de partir dans l'espace. Elle
est prise de panique.
Elle rate, on comprendra après que c'est pas un hasard, évidemment. Ouais. Sa doublure, Anthony Kurtz, qui prend sa place, finit par...
qui est l'Américain.
Exactement. Qui est l'Américain qui provoque ou pas l'accident avec l'ISS. Donc, il n'y a pas de hasard tout à fait à cet échec. Mais c'est vrai que le parcours de ce personnage, c'est un parcours de rédemption, de reconquête. Elle va se reconquérir elle-même et puis finir par laisser une version d'elle.
Ce qui est délicat, c'est qu'on peut pas
dans
dire
un espace intérieur et puis laisser et puis reconquérir une autre version d'elle-même dans un autre espace intérieur.
Ouais. Le personnage le dit, elle a besoin de repartir à sa recherche.
Ouais.
Il y a une identité comme ça disloquée, il faut qu'elle la reconstitue.
Et puis cette histoire d'amour, qui est une histoire qu'on peut qualifier romantiquement, mais qu'on peut aussi regarder objectivement en se disant, ok, elle tombe amoureuse d'un type qu'elle connaît depuis 2 secondes et cet amour va vouloir l'emmener très loin. C'est aussi un amour malade. C'est aussi un amour
Enfin, qui
il pose question,
qui, ouais. Oui, et puis qui démarre sur des bases un peu fragiles.
Oui, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais du coup, moi cette série, enfin en tout cas, ce personnage me parle à cet endroit-là.
Alors, il y a eu un travail énorme, j'imagine, de préparation, de coaching, et même que ce soit pour le jouer totalement en anglais, ou enfin pratiquement, il y a très peu de...
Oui, il y a deux scènes en français,
voilà, c'est ça. Ou même physiquement, pour être dans les conditions physiques affûtées, comme vous l'êtes, mais j'imagine que ça a demandé une préparation particulière. On va évoquer tout ça. Ça commence à partir de ce soir sur Canal. Il y a 6 épisodes et ça passe 2 par 2. À partir de ce soir, 21h sur Canal. Ça s'appelle Infinity. Et c'est
Infinity.
Ouais, Infinity. Je suis de quoi?
Il monte là-haut.
Il y a peut-être une version sous-titrée avec une voix, tu sais, avec l'accent du
c'est
sud.
Génial.
Il disait, Houston, Soyouz arrive.
Exactement.
Soyouz.
Donc... D'ailleurs, toute la version française, je l'ai fait comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace?
Qu'est-ce qui se passe en espace?
J'ai commencé à vouloir le dire avec l'accent anglais, après je me suis dit, laisse tomber. J'ai commencé avec in, et puis j'ai dit, non, c'est pas. Non. Bon, bref, c'est Infinity. Ok, d'accord, ça va.
Mais en kazakh, c'est comme ça d'ailleurs. Infinity. C'est un peu un truc comme ça.
Et Morgane Cadignan a bien raison de ne pas vous aimer, Céline Salaire. Voici Morgane. Mais pas Céline Salette, Morgane.
Bah, écoutez, je vous aime pas, mais aujourd'hui vous venez nous parler d'Infinity, qui raconte une histoire qui débute par un homme retrouvé a priori mort puisque décapité sur un toit et recouvert de cire, un homme qui n'est finalement plus qu'une sorte de grosse bougie, puisque si tu lui mets une tige dans un endroit bien choisi, ça se vend facilement 240 balles chez Flux. Et le petit souci, c'est que c'est pas normal, parce que ce gars-là, il est censé être dans la navette spatiale, mais ça, je vais vous dire, c'est les hommes, ça. Ils te disent qu'ils sont dans l'ISS alors qu'ils sont morts et recouverts de cire sur un toit au Kazakhstan. Bref, toujours la même histoire, quoi.
Mytho.
Dans les deux cas, t'es pas chez Casto en train d'acheter ce que je t'ai demandé, mais Mona Cholet, elle l'a dit, hein, ton homme qui se fait assassiner, c'est notre manière de ne pas participer aux tâches du quotidien. Mais moi j'ai adoré la série, parce que j'ai adoré des films de science-fiction comme Gravity, Interstellar, et je suis très contente qu'il y ait une création franco-belge qui explore un petit peu cet univers. Voilà, explore un petit peu cet univers, un lundi matin, en petite transition, double sens. Je vais passer d'un strapontin à France Inter, un fauteuil à l'Académie, on va rien voir venir.
Non.
Si, d'ailleurs, demain, il y a Jean-Christophe Ruffin, ce qu'on va faire, c'est que je prendrai son taxi pour rentrer à l'Académie, puis il restera là, c'est plus simple. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est assez américain, ce genre de fiction, avec une scientifique américaine hyper belle, et elle a pas le temps d'être hyper belle, donc elle a une queue de cheval, comme ça, elle a pas les cheveux dans les yeux quand elle calcule la masse du soleil. Et elle a toujours l'air super inquiet en regardant vers le ciel, en disant, c'est strictement impossible. Et c'est normal, elle est spationaute, elle a fait des études, elle peut pas regarder en l'air en disant, franchement, il y a moyen. J'en sais rien, en fait, les gars. Et là, c'est vous, Céline Salette, qui tenez ce rôle-là. C'est tellement classe. Et aussi, elle dit pas dans l'espace, parce qu'elle a pas 5 ans et demi, elle dit là-haut. C'est tellement classe. De toute façon, dans les films et les séries, à chaque fois que quelqu'un va dans l'espace pour faire des recherches et resserrer un boulon sur la navette, il y a un souci, quoi. Ça peut jamais être un aller-retour normal de taf. Et le gars revient en disant, non, bah, rien à signaler. La routine, quoi. Quand on y est, personne ne nous entend crier. La planète Terre semble toute petite. On a regardé des photos de nos gosses en se disant que le mystère le plus insondable du système solaire, c'est l'amour. Enfin bon, la base, quoi. Bah non. Faut toujours qu'il y ait une couille dans le cosmos. On va croiser un trou noir, on va être aspiré dans une dimension parallèle et se rendre compte qu'un bout de l'espace céleste se trouve derrière un vaisselier Ikea depuis le début. Ou croiser une forme de vie d'une autre planète qui forcément ne peut jamais être sympathique. À quand un film où on croiserait des extraterrestres et les gars seraient heureux de nous rencontrer? Genre, dis donc, les gars, bravo pour les mathématiques et David Bowie, dites. Et sacrée civilisation que vous avez là, quoi. Vous voulez pas venir chez nous faire un génocide? Ah oui, pardon. Non, dans notre dimension, chez nous, génocide, ça veut dire fête des voisins. Il y a des petites subtilités c'est comme ça. Au fait, votre fête des voisins en Arménie, c'était limite. On a préféré David Bowie, et chez nous, David Bowie, ça veut dire Dadju. Bref, Infinity, c'est une série qui rappelle que les Russes sont fourbes, qui nous prouve que l'on peut être française et aller dans l'espace, et qui nous fait prendre conscience que le Kazakhstan, pour des vacances, c'est encore beaucoup de déserts et des maisons abandonnées avec des néons décidément très mal fixés au mur. De toute façon, j'ai très peu d'espoir. J'ai demandé à Céline Salette si on allait s'en sortir, et elle m'a répondu que c'était strictement impossible.
Merci.
Ah mais le Kazakhstan, qu'est-ce que c'est incroyable comme cadre en fait. Moi je me suis sentie seule en regardant la série et en même temps je me suis dit j'aimerais bien y aller mais j'aurais peur de mourir de solitude.
Oui, bah, faut y aller avec une équipe comme nous.
Ouais. Ça fait grand désert.
Ça fait l'impression que si la voiture s'arrête à un moment, fini. Moi je me disais si, mais j'espère qu'il a vraiment, je me disais j'espère qu'il a de l'eau. Drôle de je me disais si la voiture tombe en panne.
Mais c'est arrivé d'ailleurs à un membre de l'équipe quand on a atterri à Almaty, la première chose qu'on a fait c'est faire 10 heures de caisse pour aller sur un décor évidemment. Et donc c'est arrivé à une des voitures.
Elle tombée en panne.
Ouais. Et donc là, c'était drôle, il a fallu qu'une autre voiture revienne la chercher, bref.
Mais on imagine, c'est vrai, ce côté, ce sentiment d'être seul, abandonné dans le désert, cette peur qui est abordée dans la série, un peu la même que celle d'être abandonné seul dans l'espace.
Ouais, c'est deux immensités.
Avec le danger de radiation ou de tempête de radiation dans la série, idem le danger des rayons du soleil et autres formes de radiation dans l'espace. Ce parallèle est intelligemment fait parce que justement que l'on soit là-haut, comme on dit, ou dans l'espace, ou que l'on soit sur le plancher des vaches, le danger est toujours là et les croyances sont très présentes aussi. Les croyances dans un dieu, une réincarnation, dans les esprits, dans le fait de pouvoir, comme vous le disiez avec cette image des deux électrons qui vivent en parallèle, c'est-à-dire d'avoir peut-être un double quelque part aussi sur cette planète, tout ça interroge et fait de suspense quoi. Ouais, qui dit croyance d'ailleurs dit suspense.
Ouais, bien sûr, le Kazakhstan c'est un territoire hyper puissant. Nous quand on y était, moi par exemple, il m'est arrivé de croiser d'un coup comme ça un troupeau de chevaux sauvages en cercle, tête contre tête. Donc je sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que
comme une étoile de cheval.
Quoi. Bah oui, comme les chevaux font un cercle, et ils se touchent, leur tête se touche, mais ils sont une vingtaine d'animaux. Et par exemple, je me rappelle avoir juste pleuré pendant 10 minutes en me disant mais c'est pas possible, il y a des gens dans leur vie qui verront jamais ça. La nature, l'état sauvage, fait communauté, fait sens.
Vous avez pleuré d'émotion.
Ben oui, c'est trop beau, franchement.
Ouais, je vous crois. Ouais.
Et là-bas, leur statut, c'est des condors, par exemple. C'est pas du tout des Belges qui ont conquis des Congos, quoi.
Ouais. Et on doit se sentir hyper seul. Vous parliez de l'équipe, mais bon, on laisse quand même toute la famille loin.
Ouais, ça, c'était dur. Ouais.
Ça participe aussi au personnage, j'imagine. On essaie de s'en servir ou de.
Oui,
d'être si
c'est
loin.
Un peu là. Non, on ne sait pas s'en servir, mais c'est un peu là.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est un territoire très particulier. Hein. Moi, je me rappelle avoir vu une colline où il y a écrit Kazakhstan 2050 en pierre blanche. Et quand tu dis aux gens, mais pourquoi il y a écrit Kazakhstan 2050, ils disent, mais non, mais c'est comme une vision. Ah bon? Ok. C'est une projection, quoi. Il y a une intention vers 2050. Ok. Donc en fait, c'est quand même.
Mais est-ce que quand on participe à un projet comme celui-là et lorsqu'on joue le rôle que vous jouez, encore une fois, on peut pas tout dévoiler. Est-ce qu'on se pose des questions sur les croyances, sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, sur ces valeurs humaines? Vous disiez.
Vous êtes déjà sensible à ça, je crois.
Bah oui, moi je suis hyper sensible à ça, et surtout toute cette question des dimensions, des multidimensions à l'intérieur de nous, c'est une question qui nous habite comme acteurs. Mais qui vous habite aussi, vous, en tant qu'auteur ou en tant que...
Mais sans travailler dessus. Sans travailler dessus, alors qu'un acteur, lui, va travailler sur ces questions.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est un peu plus incarné, disons. Mais on sait que quand on doit faire semblant de faire quelque chose, on se donne l'autorisation de le faire. D'une certaine façon, nous, acteurs, on se dit non, mais c'est possible. Même si je fais semblant. Et en fait, c'est quand on fait semblant qu'on finit par y arriver, puisqu'on est en train de le faire déjà. Ça, c'est vraiment des grands types d'acteurs, quoi. Faites semblant de faire un truc et puis vous allez y arriver très vite.
Alors justement, le travail d'actrice pour vous a été une préparation comme si vous étiez réellement spationaute.
Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, en approchant les différents territoires qui étaient les territoires à conquérir pour moi, les challenges dans la série, parler anglais mieux avec un coach et tout ça.
Ce qui est le cas, hein. Franchement. Non mais actrice américaine.
Heureusement que ça a marché un peu.
Actrice
un
américaine.
Quand tu travailles, tu dis bon bah ça va, c'est pas ridicule. Ok, tant mieux.
Non, clairement pas. Non mais clairement pas. Et en plus, je me suis dit qu'il doit y avoir quelque chose un peu de sans aller jusqu'à la schizophrénie, mais en tout cas.
C'est clair. C'est pas le même
boulot. C'est-à-dire que vous avez dû. Diviser votre cerveau en deux. Il y a à la fois celui qui va diriger l'actrice et celui qui va diriger la langue. Et être concentré sur la langue pour pas commettre d'erreurs.
Ouais, après ce truc là par exemple, c'est un truc que moi j'ai appris avec Philippe Garrel les premières fois. En fait, il faut pas du tout penser au texte quand on joue, sinon on pense au texte. C'est très difficile.
Donc il faut le connaître encore mieux par cœur, que
ce soit juste pas
un réflexe.
Normalement, il faut pouvoir jouer aux cartes en lisant son texte. Bon, on n'y arrive pas toujours, mais Mais tout ça pour vous dire que.
Et la préparation physique.
Ouais,
pardon, il y en a eu aussi.
Préparation physique, ouais, voilà, bien sûr. Bah, j'ai fait 3 mois avec une coach qui s'appelle Marie, qui est exceptionnelle.
Donc le physiquement, résultat, c'est que musculairement,
bah,
il fallait.
Je suis pas bodybuildée, hein, vous avez vu la série, mais tous les muscles intérieurs sont renforcés, ce qui est déjà pas mal.
Alors, disons que ça a mieux marché sur l'onglet que sur les muscles du bodybuilding.
Et non. Pourtant, il y a beaucoup d'entraînement. Mais toujours est-il que ça m'a permis de tenir 1 mois dans les câbles. On a passé 2 mois et demi en Ukraine. C'est aussi un des grands voyages qu'on a fait dans la série. Ouais. Avec voilà, une équipe qui, aujourd'hui, en Ukraine, se bat pour sa victoire. Hein. Moi, nous, quand on leur envoie des textos, ils disent « Non, mais ça va, vous inquiétez pas, on est en train de gagner ». C'est des fous furieux, les Ukrainiens. Mmh. C'est des gens absolument merveilleux, incroyables, hyper talentueux.
Il y a ça aussi dans la série avec le Kazakhstan, avec le jugement sur le communisme, sur ouais, la manière sûr, dont l'histoire a laissé des traces ou pas. Il y a des conflits, des tensions entre les Kazakhs, les Russes, et encore une fois, cette suspicion de guerre froide, et tout ça sur cette trame de thriller, d'enquête, avec des bons cliffhangers, comme on dit à la fin de chaque épisode, où on se dit, mais non, c'est pas possible, je suis obligé de binger. Et d'aller au bout, ça a été mon cas. Je me suis dévoré ces 6 épisodes avec il y a des images un peu dures, un peu trash, mais qui font partie encore une fois.
Il y a aussi beaucoup de beauté. Il y a aussi beaucoup d'espace.
Il y a des paysages incroyables. Ouais. Ah non mais incroyable.
C'est-à-dire qu'on est quand même au Kazakhstan et après dans l'espace, quoi. Donc ouais. En fait,
je suis d'accord.
On y va, quoi.
Ça s'appelle Infinity, c'est ce soir sur Canal. Il faut dire que c'est une création française de Stéphane Pantier et Julien Valerenberg, j'espère que je prononce bien, réalisé par Thierry Poirot. Et c'est une grosse coproduction franco-belge, comme quoi, Guillermo, on peut arriver à trouver des moments où on s'entend pour faire du bon, si ce n'est pas dans le football. Voici justement Guillermo Guiz.
Oui, absolument. Ça va les amigos?
Très bien.
Et vous savez ce qui est cool vraiment quand tu cherches un sujet de chronique? Rien. C'est le pire moment de ma semaine, quoi. Et pourtant je suis bénévole chez Flunch. Vraiment, je plume les poules pour le buffet volaille passion. Mais je trouve que trouver un sujet de chronique original après 6 saisons, c'est chaud. Systématiquement, je démissionne, quoi. De toute façon, Nagui m'a jamais aimé. Alors que par parenthèse, oui, je suis étranger, Nagui, mais je suis ici légalement. Hein. Vous confondez tout, hein. Vraiment, moi, c'est pas moi votre ennemi, Nagui. Hein.
Je sais.
Bah oui, mais voilà, c'est pas parce que je suis étranger. Du coup, ce week-end, j'essaie de choper un sujet, quoi. Je passe en revue toute la presse, France Info, Libé, Le Figaro, tout, quoi. Vraiment, Voici, Détective, Turf Hebdo, le catalogue des promos Leclerc, De Faire Part, la notice de ma tondeuse, tout, j'ai regardé, tu vois, pour trouver. Péniblement, je finis par trouver une idée de chronique. Genre, j'envoie direct un WhatsApp au rédacteur chef de l'émission en lui disant ça te va si je parle des sondages. Il me répond Tanguy Pastureau en a déjà parlé. J'étais à 100 blagues. Dis-moi de quoi Tanguy n'a pas encore parlé. Il a 100 chroniques par mois, sérieux. L'autre fois, mon sujet c'était ma nièce à les oreillons. Tanguy m'a fait déjà dit. Voilà, tu m'as déjà fait. Mais cette fois, j'ai insisté pour parler des sondages. J'ai dit au rédacteur chef, je te promets, j'aurai un angle original, décalé, pertinent.
Wow.
J'ai menti, honnêtement, 0 sur 3. J'étais obligé, j'avais rien en stock, quoi. Soit je parlais des sondages, soit je parlais de mon thème astral, tu vois. Dans Horoscope Magazine, ils disaient que j'avais des vies antérieures palpitantes. Dans une, j'étais parulé de Carlos. C'est vrai, big bisou, apparemment, c'est moi, j'ai écrit 2 premières strophes. Au fond, moi, je le sentais, quoi. En écoutant, je me suis toujours dit, putain, on sent ma patte, quoi. Vraiment, tu Enfin, bref, les sondages, j'ai un angle, quoi. Quand même, il y en a beaucoup quand même, non?
Ah ouais, voilà.
Prends ça, Raphaël Enthoven. Mais c'est vrai que il y a trop de sondages. Tout le monde a son baromètre. IFOP pour le Monde et France Bleu, et là pour BFM et les Échos, Ipsos pour Footlocker et Hippopotamus. Donc vraiment, t'as l'impression que faudrait arrêter les sondages un an avant la présidentielle. Il y aurait un vrai suspense dimanche, quoi. Là, dimanche soir, TF1, ils ont programmé les visiteurs. Ils se sont dit, il y a plus de suspense dans les visiteurs. Mais c'est vrai qu'on se demande si la fripouille va ken avec Dame Ginette. C'est vrai que, alors que c'est des parcours de vie très différents, la fripouille et Ginette, vraiment, tu vois. Mais bon, les visiteurs, c'est pas usuel suspect non plus, quoi. Là, ça fait un moment qu'on sait que Jacou, il va appeler le jonc de personne, tu vois. Mais moi, normalement, tous les 5 ans, il y a la présidentielle, je suis en Belgique dans mon fauteuil avec des pop-corn et une vue vous est là. Je suis là, Mélenchon, président, oh, encore raté. Vraiment, tu vois. En tant que belge, c'est juste un spectacle pour moi, tu vois. Il n'y a pas de vrai enjeu, même si Zemmour y passait, j'aurais pas grand chose à faire pour pas être impacté, quoi. Au lieu de prendre mon Thalys, je le prends pas. C'est réglé, je reste à Bruxelles. Vous allez me dire, si Zemmour y passe, ils vont virer les humoristes d'Inter. Rien à foutre, c'est ma dernière saison. L'année prochaine, je suis en plein temps chez Flunch. Là, on parle contrat. Franchement, j'aurai mon propre poulailler. Et pour les plumes, j'ai un deal avec France Litterie en plus. Dans 2 ans, moi, j'ai une Tesla ici, je te le dis. Mais vous, ça peut vous changer la vie, une présidentielle quand même. Sauf que là, ça a l'air tellement plié pour Macron que tu sens que même lui, il est pas motivé par sa propre campagne, quoi. L'autre jour, chaque jour, il prend son téléphone en mode, comment ça va aujourd'hui, Vladimir? L'autre, il fait, bien, depuis hier, pas mal, tu sais. Tiens, au fond, t'as vu la dernière série drôle sur Netflix? Eh ben, figure-toi, moi, je suis pas très stand-up, mais là, je trouve que les personnages sont vraiment attachants. Sûr, ils s'appellent une heure et demie par jour. C'est sûr qu'ils se parlent de leur série préférée. Au début, Macron, il a dit, ah, Vladimir, je peux te parler de l'Ukraine. Poutine, il a dit, bah, non. Et donc là, ils s'en sont échangés leur code canal, quoi. Tu vois, c'est sûr. Macron, il dit que c'est gagné d'avance. Du coup, les Français aussi, à force de voir qu'il est au-dessus de 25% depuis 6 mois, les gens, ils sont, c'est qu'il est digne de confiance, Macron. C'est comme quand tu commandes des nouilles sur Uber Eats. Tu vois que le roi de la nouille, il est coté 4,7, tu dis, bah, c'est que c'est des bonnes nouilles. Bah, tu fais même plus attention à ce que proposent d'autres restos du quartier, genre, à la petite nouille. Ah, bah, alors que si ça se trouve, à la petite nouille, c'est plus frais. Prends Anne Hidalgo, par exemple. Pour évoquer quelqu'un dont Tanguy parle pas souvent. Sérieux, je crois qu'il est in love, c'est pas possible autrement. Franchement, il refoule le truc, c'est pas possible. Et get a room, quoi. Franchement, Tanguy, sérieux, bah, Anne Hidalgo sur Uber Eats, à cause de sa note, plus personne regarde son offre de nouilles. Bah, c'est vrai, les sondages, ça renforme le conformisme, en fait. Et en général, les seules petites surprises que t'as avec les enquêtes d'opinion, c'est en faveur de l'extrême droite. Tu vois, jamais Yannick Jadot, il aura 45% dimanche soir avec les gens qui vont faire, on n'osait pas le dire au téléphone. En général, c'est le score de l'extrême droite qui est sous-évalué parce que les gens qui n'assument pas d'être racistes pendant les enquêtes téléphoniques, tu leur appelles, qu'est-ce que vous pensez des Arabes? On aime bien. Et le dimanche soir, t'es la surprise, on n'aimait pas tant que ça. Et sinon, dimanche, ce sera sûrement Macron-Le Pen, mais le véritable gagnant, ce sera Montjoie Saint-Denis. Allez, bonne émission et bonne émission.
Merci, bravo. T'as trouvé un nouvel angle.
Absolument.
T'as trouvé un nouvel angle. Infinity, cette série, alors je l'ai dit, ça passe tous les lundis à 21h sur Canal, deux épisodes par soirée, mais sinon l'intégrale, pour ceux qui veulent binger et avoir les six d'un coup, c'est sur MyCanal dès aujourd'hui. Est-ce que, justement, vous êtes une dévoreuse de séries, Céline Salette?
Bah oui, je peux, c'est assez rare, mais je peux, ouais. Bah, Euphoria, j'ai tout mangé tout de suite, un peu, Succession et tout ça, il y a des séries qui me passionnent.
Et la science-fiction, c'est-à-dire l'idée, on parlait de Gravity, justement, pour trouver de la même musique. Ouais, Interstellar. Est-ce que ce genre de suspense où, finalement, on ne maîtrise pas tant le sujet, c'est-à-dire les uns comme les autres, on n'est pas cosmonaute, spationaute ou taïkonaute, donc on ne sait pas trop de quoi ça parle et on peut regarder ça qu'avec des yeux d'enfant. Est-ce que c'est crédible ou pas le fait qu'un Soyouz s'approche de la station international et qu'il y en a un qui dit non, laisse tomber, je vais prendre directement le volant, moi, je crois pas à l'ordinateur. On sait rien.
Bah, les auteurs, ils ont un peu consulté quand même. Hein.
Non, donc, mais j'imagine, mais vous en tant que.
Les accidents, oui, ça pourrait arriver. Heureusement, ça n'arrive pas parce que. Bah, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de. Je sais pas. Y a pas de problème. Ouais. Merci pour cette non-phrase.
À l'heure où nous parlons. Il y a beaucoup de paranormal aussi dans cette série. C'est vraiment. J'ai presque envie de dire, il y a deux intrigues en parallèle, même si les deux concernent le même sujet. Mais il y a l'angle très scientifique, très très pointu, très cartésien, et de l'autre. Le côté totalement paranormal.
C'est vrai, mais moi, le paranormal, c'est un truc dans la série, dans cette série-là, qui me parle plus du côté de la métaphore et du côté de la poésie. En fait, il y a un moment où c'est parti. Le cerveau des auteurs a pété une durite. Mais ce qui est passionnant, c'est que je trouve que ce qui sort de ça, c'est, si on débranche justement sa propre rationalité, c'est de la métaphore et de la poésie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Vous m'avez dit que vous aviez évoqué avec Claude Aigneret
l'overview effect.
Ouais, racontez ça.
Bah oui, j'ai eu de la chance parce qu'on s'est parlé par Skype.
Claudie Aigneret quand même.
Ouais, Claudie Aigneret, une des premières femmes françaises à avoir été dans l'espace. Une femme extraordinaire, sublime. Ouais.
Très belle femme.
Qui disait, les cosmonautes partagent ce syndrome qui s'appelle l'overview effect. Quand tu as vu la Terre depuis l'espace, boule vivante, lumineuse, au milieu du vide et du néant, quoi, de l'espace, tu as conscience de sa préciosité, de sa singularité et de sa fragilité. Et quand tu reviens, tu es porté par l'idée de absolument dire que c'est précieux, absolument dire qu'il faut protéger, absolument dire que ça n'est pas... C'est exceptionnel, il n'y aura pas de planète B, il n'y aura pas de plan B. Il n'y a pas de plan B.
Il n'y a pas de deuxième chance.
J'ai dit quatre fois, parce que c'est vrai. Mais c'est vrai, il n'y a pas de plan B. Donc, je sais que l'écologie n'est pas du tout au cœur de cette campagne. Je ne sais pas très bien pourquoi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais les rapports du GIEC sont toujours aussi inquiétants. Hein, ouais. Je veux dire, plus qu'inquiétants quand l'Antarctique prend 40 degrés en deux secondes. Personne ne comprend littéralement ce qui se passe. Ce qui est dur, c'est que moi, j'espère qu'on va pas devoir se retrouver dans le chaos le plus total pour réagir. Malheureusement, je pense que c'est ce qui va se passer. Parfois même, on le voit bien en Ukraine, il y a une guerre et tout le monde fait genre « bah ça va, c'est pas pire ». Mais... parce que ça ne nous concerne pas de près.
Non, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ait besoin de toucher du doigt une catastrophe pour s'en rendre compte.
C'est affreux, franchement.
Tout ce qui peut être dit depuis même 30-40 ans sur l'état de la planète a toujours été pris par de...
Voilà. La catastrophe est déjà là, mais sauf qu'elle ne touche, elle ne nous touche pas encore pas directement.
Tout fait. Pas tout à fait trop.
Mais
d'un point de vue environnemental, la catastrophe, elle touche plein de populations qui ont beaucoup moins de chance que nous, et on le regarde comme on peut regarder une guerre en se disant, bon, c'est pas cool.
C'est encore loin.
Mais c'est loin.
C'est encore loin.
Mais ce sujet est présent aussi dans Infinity avec les explosions solaires et toutes les incidences que cela peut avoir sur notre planète parce que c'est magique, justement, c'est précieux, comme l'a sûrement vous l'a transmis Claudie Aigneret en disant que cette magie-là, il faut au contraire la choyer, la respecter plutôt que de l'abîmer ou de penser que tout est dû.
Ouais, bien sûr. Pardon, je me suis fait une petite montée.
Non, vous avez raison.
Excusez-moi. Mais c'est parce qu'on va voter dans pas longtemps et peut-être cette chronique m'a un peu...
Réveillé, celle de Guillermo.
Oui.
Mais il en a réveillé plus d'une. Infinity, c'est une création ce soir.
Du moment qu'il les a réveillés, franchement.
C'est qu'elles sont.
On va évoquer la conquête spatiale. J'adore la gêne de Guillermo.
Putain, vous faites des blagues cheloues.
J'essaie de te
sauver d'un truc.
Dorian de Shepmeister est journaliste scientifique au magazine Ciel et Espace. Il viendra tout à l'heure répondre à cette question. Où en sommes-nous dans la conquête spatiale en 2022? La musique dans la vie de Céline Salette. On va commencer en 2011. Vous écoutiez... Qui dirige le monde? Les filles. Beyoncé le chantait en 2011. Vous avez choisi cette musique pour les paroles, pour le tempo. Ça évoque quelque chose de précis?
Pour tout. Pour la chorégraphie, pour la coiffure, pour le maquillage. Et pour, bien sûr, le texte, la poésie. Ouais,
féministe?
Bah oui, franchement, on le sait. C'est des femmes qui font tourner le monde. Maintenant, laissez-leur les clés de la voiture parce que là, il est temps d'aller dans une autre direction.
Justement, les femmes dans 2011, c'est la Polonide.
C'est la Polonide, mais c'est aussi un été brûlant, c'est aussi Au-delà, avec Clint Eastwood, Philippe Garrel, vous l'avez évoqué, Bertrand Bonello. Trois grands réalisateurs. Vous avez évoqué tout à l'heure Philippe Garrel comme celui avec lequel vous avez particulièrement énormément appris. À quoi ça tient? Qu'est-ce que vous avez appris avec lui, sincèrement, et encore aujourd'hui?
Ben, son père, c'est cet immense acteur, Maurice Garrel, et du coup je pense que lui comme cinéaste, il était habité par la conscience que l'acteur c'est le premier outil du cinéma.
Oui.
Et c'est pas le cas de tous les cinéastes. Il y a plein de cinéastes qui pensent que c'est le cadre, la lumière, le décor, enfin autre chose quoi.
Oui.
Alors que lui il sait que l'histoire réside dans l'incarnation, dans les acteurs. Et du coup il a beaucoup appris de son père je pense, et puis il a beaucoup transmis à son fils Louis, et puis du coup c'est son outil, les acteurs. Et du coup, il a une science, enfin, il a une oui. technique, quoi. Enfin, une...
Vous parliez du texte tout à l'heure, comme quoi il fallait connaître parfaitement son texte pour ne plus penser au texte et pour être, quoi, l'incarnation du texte tout d'un coup.
Oui, c'est ça. Mais Philippe, c'est quelqu'un qui dit la caméra filme la pensée, par exemple.
Oui.
Donc, il faut pas penser que t'es un acteur en train de jouer. Il faut pas, évidemment, pas penser à la tête que t'as quand tu joues, évidemment. Il faut.
Ça a l'air évident comme ça, mais pas du tout.
Non, c'est joli, la caméra filme la pensée.
Ouais. De façon sacrée. Et par exemple, il disait aussi, le temps entre moteur et coupé, c'est un temps qui est sacré, parce que c'est quand même du vrai temps de ta vie qui passe et qui te rapproche de ta mort. C'est pas une parenthèse, t'es pas en train de faire autre chose que de vivre ta vraie vie. Donc c'est toi, plus les pensées de l'histoire, plus les pensées de que tu peux convoquer. C'est des pensées supplémentaires, mais c'est jamais toi en moins.
Ouais.
En 2014, Céline Salette, vous écoutiez... Où t'es, papa, où t'es, où t'es, papa, où t'es, où t'es. choisissez les musiques que vous écoutez? C'est des recommandations de potes, c'est la radio tout simplement, c'est...
C'est un peu tout, je crois, c'est un peu... qu'est-ce qui nous parle à un moment donné, tout ça, qu'est-ce qui fait que... Ma fille, elle me fait beaucoup découvrir
elle,
des morceaux.
C'est elle, la DJ à la maison.
Maintenant, c'est elle. Maintenant, c'est elle qui me file des gros. Et franchement, elle a bon goût, j'ai de la chance.
On est en 2014, Céline, et on vous retrouve dans Vie sauvage de Cédric Kahn, où vous incarnez un personnage très, très émouvant, l'histoire de cette mère qui se voit enlever ses enfants par son mari, Xavier Fortin. Et c'est l'histoire d'une douleur, d'une séparation qui est innommable, qui est impensable, justement.
C'est pour ça que vous avez choisi Papa Outé ?
Non, okay. Mais c'est marrant, ça résonne, c'est vrai.
Bah oui.
Ouais, ça résonne vachement. C'est important, les papas.
Ouais.
Bah, c'est tout. Non, mais j'ai de la chance, mon papa, il était là.
Et ce rôle ? Et jouer cette femme, cette mère,
cette douleur,
cette tristesse infinie, cette peine inconsolable en fait.
C'est dur. Je pense que la famille, c'est le premier territoire de guerre ou de paix. C'est le premier intime. C'est le premier pas travaillé. Tant qu'on n'a pas conscience que c'est un espace qui doit être un espace évolutif, qui doit être un espace de recherche. Ouais. J'ai envie de dire. On refait des trucs, et franchement, d'où on vient en général, c'est moins bien que où on veut aller.
Et que c'est fragile aussi, au même titre de ce que vous disiez tout à l'heure sur la planète. C'est un autre univers fragile qu'il faut préserver.
Ouais, bien sûr. Donc quand on fait des familles, en général, il faut être armé de drôlerie et d'inventivité, parce que il faut toujours trouver les troisièmes voies, quoi. Mais tout le monde n'est pas, je veux dire, il n'y a pas d'école. C'est ça qui est bizarre. On devrait avoir des écoles de parents et tout ça. Alors que c'est un des trucs les plus durs à faire au monde, quoi. Il n'y a pas d'école. Aussi, pourquoi personne ne dit
les paroles de Stromae, on n'apprend pas à être papa, quoi.
Bah oui, mais on devrait, franchement. Ça n'a pas de sens.
Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre?
Bah moi, j'ai fait une école, hein. Parce que dans l'école de ma fille, qui s'appelle Living School, où elle est plus maintenant, il y a des cours pour les parents. Alors, dit comme ça, évidemment, personne n'a envie d'y aller. Ah non, mais personne n'a apprendre à être parent. Bah en fait, c'est intéressant.
Surtout sur ce ton. Oui,
ouais, exactement.
Qu'est-ce que vous avez appris, Céline?
Plein de trucs. Moi, par exemple, j'avais du mal à m'affirmer. Et par exemple, j'ai appris que être parent, c'est être exemplaire. Tu peux dire à ton enfant, fais ci ou fais ça, mais tant que tu le fais pas pour toi-même, c'est-à-dire tant que t'as pas toi-même une grande confiance, arrête de râler, tant que toi, t'arrêtes pas de râler, tu peux dire à ton enfant, arrête de râler. Si toi, t'es toujours en train de râler ou d'être impatient. Donc tout ça, ce qui compte, c'est l'exemplarité.
Y compris ceux qui disent à leurs enfants, mets la ceinture derrière, mais qui mettent pas, eux, la ceinture sécurité devant. C'est-à-dire que les enfants ne comprennent pas que l'on dise des choses que l'on ne fait pas.
Évidemment. Hein, et puis surtout, même sans les mots, même ceux qui parlent pas encore, les enfants, ils comprennent tout. Comment un parent est centré, pas centré, comment est-ce qu'on peut s'affirmer sans défoncer un truc, enfin, je veux dire...
Y compris la violence, les gestes...
Oui, tout. Je veux dire, mais tout ça, ça s'apprend, on peut apprendre à gérer ses violences et tout. Donc, c'est un sacré espace de chantier à ouvrir.
En 2019, vous écoutiez Angèle, décidément, vous êtes très belle dans vos choix.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé?
Là aussi, balance ton quoi, on en revient au féminisme et au combat du MeToo, la libération de la parole, des réseaux sociaux.
Oui, moi j'ai envie de dire, c'est la fin de la société de la domination.
Patriarcale.
C'est la fin. Moi je dis pas patriarcale parce que les femmes sont aussi dépositaires de la violence et des rapports de domination et des rapports de force, évidemment. C'est un peu plus masculin, mais aussi beaucoup de femmes. Je veux dire, c'est des petits garçons qui grandissent avec des mères dominantes et tout ça. En fait, la domination, cette grande ligne de cette grande chaîne d'écrasement, c'est une chose avec laquelle on vit tous, hommes et femmes, et c'est une chose qui doit se terminer, qui est en train de se terminer.
Non, pardon, la domination, elle est présente partout, que ce soit, vous parliez de l'éducation tout à l'heure, que ce soit des mères possessives ou les pères violents, enfin peu importe, sans stigmatiser qui que ce soit, elle est présente également d'un point de vue économique, l'argent qui dirige tout et qui domine tout.
Mais oui,
aussi.
Mais il faut sortir de ce rapport de force, il faut rentrer dans la coopération, vite. On a un besoin urgent de coopérer maintenant.
Sinon,
on continue de faire ce qu'on fait et on fait quand même vraiment de la merde, moi je trouve. veux dire sans jugement. la phrase du non-jugement. C'est sans jugement, mais vraiment on fait de la merde.
Non, mais ça ressemble à quoi la coopération? C'est une salette quand on est employé quelque part, quand on doit subir un rapport dit de hiérarchique qui est en réalité un rapport de domination parce qu'on doit ramener de l'argent à la maison pour...
La réalité, c'est que c'est évidemment depuis en haut que ça doit se passer, la coopération. C'est évident que c'est le plus fort qui doit dire « Attends, je vais essayer de ne pas écraser cette personne qui est plus faible que moi, pour voir ce qui se passe. » Et puis c'est aussi, en fait, tout simplement un éveil des consciences qu'on doit tous avoir, parce qu'en réalité, on vit tous sur la même planète, on est très interdépendants, il n'y a pas un riche qui va s'en sortir par rapport... qui s'en sortira mieux. La réalité, c'est qu'à un moment, même sa maison... bunkerisé, enfin je veux dire, peut-être Vladimir Poutine il va s'en sortir parce qu'il a un bunker en Sibérie, mais c'est pas sûr, enfin je veux dire, il va juste finir seul, vieux, et comme tout le monde, en fait, on va tous mourir. Donc, essayons de coopérer, quoi, parce qu'en réalité, nos moments de vie sont précieux.
On va continuer de parler avec Céline Salette d'Infinity, et...
C'est un peu trop, mais bon, c'est pas grave.
Non, et... Alors je dis Dorian ou Doriane ?
Dorian.
Dorian, très bien. Dorian de Scheppmester et journaliste scientifique à Ciel et Espace est notre invité. Bonjour, merci de venir à ce micro.
Bonjour, merci à vous
d'avoir invité. Dorian. Tout à l'heure je disais où en est la conquête spatiale. C'est vrai que c'était un événement dans les années 60-70. Des familles entières achetaient même la télévision pour voir le premier pas sur la Lune. C'était un événement, la planète s'arrêtait de tourner, de respirer pour voir ce qui se passait sur la Lune. Et là maintenant on a l'impression qu'il y a des tonnes de fusées, enfin des tonnes, j'exagère, mais enfin beaucoup de fusées qui sont envoyées dans l'espace, de cosmonautes, spationautes, astronautes, taïkonautes, qui vont sauf quand c'est Thomas Pesquet, où là, son compte Instagram nous fait suivre tout ce qui se passe. Mais il se passe beaucoup de choses que l'on ne suit pas autant. Pourquoi ? Ça passionne moins d'un coup ?
Alors, je ne sais pas si ça passionne moins. Je pense que justement, il y a un gros regain d'intérêt ces dernières années, depuis notamment l'annonce de l'administration Trump de retourner sur la Lune. Il y a un gros regain d'intérêt, je pense, à ce niveau-là. Ça s'est démocratisé, forcément, puisque dans ces 50 dernières années, il y a eu énormément de progrès technologiques. Voilà, il y a eu vraiment, on en est à l'ère où des sociétés privées deviennent contractuelles pour la NASA, pour envoyer des astronautes sur l'ISS, par exemple. Donc, ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, tout est filmé.
Pas démocratisé. C'est peut-être pas non plus abordable à tous les prix.
Non, c'est sûr.
Ce n'est plus l'objet uniquement de nations et une espèce de guerre politique, de domination de l'espace. Ça devient maintenant une guerre commerciale avec une présence de grands... C'est que des milliardaires, les Elon Musk, Bill Gates et compagnie
pour l'instant, on a trois milliardaires qui sont en course. Donc c'est Elon Musk qui est le chef Tesla. De SpaceX et de Tesla. Jeff Bezos qui a quitté le commandement d'Amazon, mais qui dirige Blue Origin, qui est sa compagnie d'aérospatiale. Et il y a Richard Branson, bon, qui est un peu plus discret avec Virgin Galactic parce que ça a plus ou moins marché ces 20 dernières années. Mais on a ces trois milliardaires-là. Et la course, elle se fait principalement entre Jeff Bezos et Elon Musk. C'est-à-dire que, par exemple, pour la NASA a distribué le contrat pour l'alunisseur lunaire, qui va poser des astronautes sur la Lune. Et il y a eu une petite guerre commerciale, en effet, qui s'est jouée entre Bezos et Musk sur qui allait avoir le contrat.
Parce qu'il y a un intérêt financier pour eux de le faire.
Bien sûr, c'est pas
de la philanthropie, ni un appétit de...
Il y a sûrement vraiment un intérêt... ils voient sûrement un intérêt technologique et scientifique, mais il y a forcément un intérêt bien financier aussi pour eux,
Il y a aussi un aspect toujours militaire dans la présence de forces dans l'espace, de domination, d'espionnage.
Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une militarisation de l'espace, c'est comme ça qu'on dit. Il y a une militarisation de l'espace depuis quelques années. On a des satellites militaires qui sont envoyés, mais pour faire de l'imagerie. Pour l'instant, ça tire pas encore des rayons laser sur des régions du monde. On peut se rassurer de ce côté-là.
Faire de l'imagerie, c'est espionner en faisant des photos.
Oui, c'est ça, voilà. De l'imagerie satellite, voilà. Ils prennent des photos au sol.
On l'a vu sur la guerre en Ukraine, ça a eu beaucoup d'importance.
Exactement. Ouais. Et il y a des compagnies privées qui le font, d'ailleurs. Maxar Industries qui fait des photographies, qui photographie ce qui se passe au sol et qui a permis de savoir où se situent les troupes russes, par exemple. Donc, il y a une militarisation à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a beaucoup de satellites militaires qui sont envoyés. On a eu la création de la Space Force sous l'administration Trump en 2018. On a le commandement de l'air et de l'espace qui a été créé en France ces dernières années aussi. Mais l'espace reste aujourd'hui quand même globalement scientifique.
Et la France dans tout ça ? On pèse quand même. Le silence.
On pèse bien quand même. Non, on se débrouille, bien. On est quand même le plus gros investisseur européen de l'agence spatiale européenne justement. On a joué un gros rôle sur la conception de Ariane 6, qui va être la prochaine génération de fusées, de lanceurs, qui vont commencer à être envoyés cet été.
Oui, mais qui ne lance que des satellites, et elle ne lance pas de.
Pour l'instant, oui, d'accord. Que des satellites. Mais la France a quand même un gros rôle à jouer. Par exemple, Airbus. Je sais que donc l'ESA a des contractants, l'ESA a des contractants donc comme Airbus, qui ont réalisé des parties de l'European Space Module qui va être sur Orion, qui va être le vaisseau qui va renvoyer des astronautes sur la Lune. Donc vraiment, il y a une participation assez forte de l'Europe et surtout de la France, qui est un des plus gros.
Oui, on a des grands noms français en plus qui sont illustrés. On parle de l'environnement, on parle de l'argent investi dans la conquête de l'espace.
Ah, c'est une poubelle, l'espace.
Ouais, l'espace qui est devenu vraiment une sorte de chantier. Enfin, en tout cas, on n'a pas les conséquences directes pour nous, mais ça gronde quand même, cette voix qui s'élève en disant, ben voilà, on a une planète, on s'en occupe pas et on investit des milliards dans l'espace. Est-ce qu'il y a un mouvement qui commence un peu à s'amorcer en ce sens-là, de compensation, de montrer qu'il y a une forme de conscience de la planète avant d'aller chercher dans l'espace ?
Je pense qu'en effet, il y a une grosse prise de conscience par rapport à ce qui se passe sur Terre, et même des astronautes comme Thomas Pesquet, vous en avez parlé tout à l'heure avec l'Overview Effect, qui reviennent sur Terre et qui disent « on a une planète, il faut la protéger ». Voilà. Alors en effet, il y a une prise de conscience. Je pense que c'est à distinguer l'effort technologique et scientifique qui est fait au niveau de la conquête spatiale, et à distinguer de l'effort scientifique qu'on peut faire pour protéger la planète et trouver des solutions viables en fait pour ce qui se passe sur Terre. Aujourd'hui, par exemple, on a des lanceurs, des fusées qui sont propulsées à hydrogène, donc qui sont moins polluantes des lanceurs précédemment utilisés. Voilà. On essaie de trouver des solutions pour rendre l'industrie moins polluante.
Les mondes cachés, c'est la une du nouveau numéro de Ciel et Espace. Les mondes cachés sortent de l'ombre, planètes flottantes, trous noirs errants, astéroïdes, je vais arriver, interstellaires ou autres, étoiles perdues. Merci Dorian de Shipmaster d'être venu à ce micro. Bonne journée.
Merci à vous.
Voici, il était très calme Dorian, ça va changer. Voici Alexandre Kamenek.
Ça va super,
Doucement, tranquillement, voilà. Bon, tout ça pour vous dire que quand même, je suis content de vous voir. C'est vrai, ça fait un bail qu'on s'est pas vu.
C'est vrai.
Alors, est-ce que c'est parce que je suis actuellement sur des projets de ouf, genre en train de tourner dans un méga film dont je ne peux pas trop en parler, pas du tout. C'est juste que personne n'est malade, donc voilà. Franchement, il y a que Morin qui me fait croquer dans cette équipe. Et franchement, qu'est-ce que c'est bien d'avoir un mec qui lèche tout ce qu'il trouve dans la team. C'est merci Daniel. Bon, en attendant de rien foutre, faut bien bosser. Donc mon héros du jour.
C'est qui ?
Que dis-je ? Mes héros auraient pu être tous ces gens qui soutiennent la Russie. Franchement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que moi je suis pro-russe. J'ai juste de l'admiration pour toute l'énergie qu'on met dans notre soutien à l'Ukraine, ou plutôt dans le bashing russe. On dégage la Russie de partout. Les grandes marques ont fermé boutiques, on la veut pas au mondial. Même certains sites porno ont fermé en Russie, et ça, je comprends pas. Non, faudrait justement offrir des abonnements premium. Faut peut-être les détendre, les mecs, justement. Moi, si tu me vois débarquer avec du sopalin, c'est sûr, je vais pas me battre. Voilà. Mes héros auraient aussi pu être les plus courageux en termes d'engagement dans ce conflit, et surtout engagement pour l'Ukraine. C'est les gens ici qui portent des pins.
Ça existe ?
Ouais, aux couleurs de l'Ukraine, ouais.
Ah oui.
Ouais. Il y a des gens, ils portent des pins, et ça, je pense que Poutine, il doit trembler, s'il sait qu'on porte des pins. Non, mais ça va dans tous les sens, ce bashing, On porte des pins, on arrête de boire des Moscow Mule. Un pote m'a dit, je touche plus le caviar. J'ai dit, mais depuis quand t'en manges, t'es au RSA? Mes héros du jour, les amis, auraient pu être aussi tous ces gens qui partent pour sauver des vies en Ukraine. Alors, c'est super, mais franchement, ça m'énerve. J'ai regardé la télé, il y a un Français qui disait, ouais, j'ai tout plaqué. Tu bossais dans un Franprix à Clermont-Ferrand. T'as rien plaqué du tout.
Et alors ?
T'as fui Clermont-Ferrand. Non. À part l'équipe de rugby, personne ne plaque quoi que ce soit à Clermont-Ferrand. Non, mais c'est vrai, j'y étais, c'est dégueulasse, Clermont-Ferrand. Mais à tel point qu'en arrivant à Mariupol, il a dû se dire, mais à quel moment j'ai fait demi-tour ? Alors il y a des gens qui diront, t'as qu'à y aller toi en Ukraine. Eh bien, moi pas besoin. J'aide à ma manière. Voilà, je reste ici. Moi, j'incite les gens à profiter de la vie. Voilà. Non, parce que Covid, climat, la guerre, la menace nucléaire, les gens qui votent Mélenchon, on a quand même pas mal d'indices qui sentent l'apocalypse. Hein, Alors, faut profiter, les copains. Moi, je vous le dis, faut profiter. Hein. Moi, je veux pas mourir devant mon petit-fils en lui disant, vous avez fait quoi pendant le Covid, papy? Du pain à la maison. Et pendant la guerre, bah, on portait des pins. Et pour le climat, oh bah ça va, là, t'en as d'autres des questions à la con comme ça. Papy, pourquoi j'ai quatre bras? Bah parce qu'on les a laissés bombarder des usines nucléaires et bah parce qu'on n'avait pas les couilles face à Poutine. La couille, papy, j'en ai qu'une, moi. Donc, le héros du jour, les amis, c'est toi, c'est moi. Merde, on dirait du Grégoire. Mais c'est celui qui arrive à profiter de la vie qu'il nous reste dans ce monde qui dégringole. D'ailleurs, jeune demoiselle, si tu veux vivre l'apocalypse sous la couette, écris-moi sur Insta. Alors, je dis jeune, mais moins jeune aussi, hein, vieille, les mecs, tout. Je prends tout. Je ne veux rien louper, même les remplacements de Daniel Morin.
Merci, comme cabinet. Bonjour, Tanguy Passureau. De quoi parles-tu aujourd'hui?
Je vais vous parler de mon week-end en Bretagne. Il y a des images des villages martyrs en Ukraine qui ont gâché ce week-end en Bretagne.
C'est la bande originale avec
Bonjour,
Guillaume Guise, Alexandre Cominec. Bonjour. Tanguy Passureau est notre invité, Céline Salet.
Bonjour.
Pour parler de cette série Infinity, qui est à la fois un thriller spatial, spécial, mais aussi paranormal, avec un véritable suspense. Il est évident que lorsque l'on sait que tout part, et dans les premières minutes, donc je ne divulgâche rien, tout part d'un accident qui a lieu dans l'espace entre la station internationale spatiale et l'arrimage d'un Soyouz. Et de là arrive donc cet accident, perte de contrôle et perte de contact. À partir de là, on ne sait plus ce qui se passe, problème. On trouve au milieu du désert kazakh un cadavre, puis un deuxième, qui ressemble étrangement au corps de certains astronautes, décapités et recouverts de cire. Et là arrive justement le paranormal, c'est-à-dire une espèce de tradition qui voulait qu'on n'enterrait pas les morts, mais on les mettait en contact avec le ciel en les élevant sur des tours, tours du silence, ouais. Tours de divination ou de divinité, tours de Babel qui les emmenaient comme ça le plus proche possible du ciel en attendant que les vautours viennent faire leur affaire. J'ai pas trop
dévoilé. Oui, ce sont des rituels, Zarathustrian. Non,
Lié à Zarathustra.
Ouais, exactement. Des rituels liés à la vénération de Zarathustra, du soleil, donc. Et c'est des rituels qui existent.
Oui, puis il y a un côté shaitan, un côté diabolique aussi. Ouais, c'est-à-dire, on se demande quels sont ces signes que le ciel peut envoyer, comment la réincarnation, oui, la communication avec l'au-delà. Toutes ces questions sont posées.
C'est ça. C'est l'incarnation du mal qui est là, et qui... Attends, je ne devrais pas m'embarquer dans cette phrase. Parce que la commencer comme ça, c'est vraiment obligatoirement mal la finir parce que je ne sais pas ce que je veux dire.
D'accord. Non, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas trop en dire sur cette série, si ce n'est qu'il y a aussi, évidemment, l'espionnage qui doit exister. On se demande d'ailleurs comment ils ont fait pour, au milieu de cette guerre froide, se mettre autant d'accord sur le financement, sur les progrès, mais et qui espionne qui manipule qui entre Chinois, Français, Américains, Russes, tout cela au-dessus du Kazakhstan qui s'est libéré du communisme russe, parce que là aussi ce poids-là est important. Et quand on voit ce qui se passe maintenant en Ukraine, tous les dialogues et tout ce qui se passe dans la série, dans le rapport entre Russes et Kazakhs est extrêmement fort et prend une dimension.
C'est,
et la corruption.
C'est le parallèle avec l'Ukraine aussi, très corrompu, forcément.
Oui, puis les Russes continuent de venir faire la loi au milieu du Kazakhstan, alors que l'inverse n'est pas possible.
Mais c'est une série qui nous prend par la main avec l'enquête et des repères qu'on connaît pour nous amener, et des choses rationnelles, pour nous amener vers l'irrationnel, vers la métaphore, vers la poésie.
Il y a une très belle lumière, c'est super bien réalisé, il y a un rythme incroyable, et puis la barrière de la langue, on finit par l'oublier, parce qu'on est vraiment dans le sentiment d'être dans une production, super production multinationale.
Ouais, je conseille aux gens de la regarder en VO, parce que y a la richesse de la série, c'est aussi ses langues. On entend du kazakh, on entend du russe, on entend de l'anglais, on entend du français. C'est le bourdonnement de la vie, c'est le bourdonnement de ces multidimensions qui font qu'on est tous des humains sur une seule petite planète.
Et puis tout ça avec des histoires d'amour, des histoires de trahison, de confiance, de double jeu, et aussi d'espionnage entre les différents pays. Beaucoup de recettes menées par Thierry Poirot, pour qui en est le réalisateur, avec au casting Céline Salette, Dania Alchinov, oui. Vlad Ivanov, oui. Lex Schrapnel, oui. Karina Otunian, Anatoly Pachenko, oui. Elora Torchia, oui. Jared Merz, Samal, oui. Yeslyamova, Oleg, oui. Levin, oui. Et Laurent Capelluto, que, oui. je ne voulais pas oublier, oui. Ouais, qui a trop la classe là, oui. également, et qui ne sait pas trop d'ailleurs s'il est à vos côtés ou contre. Là aussi, même au sein de chacune des nations, il y a aussi des tensions. On va continuer à en parler jusqu'à midi et demi avec Céline Salette. Infinity, c'est ce soir sur Canal et en intégralité déjà sur MyCanal. Voici Tanguy, passe sur eux.
Ce week-end, j'étais en tournée dans le Sud Finistère, qui diffère du Nord Finistère par le taux d'humidité qui est de 97% contre 98% pour le Nord.
Ah ouais.
Donc tout se passe bien, triomphe habituel. Après le spectacle, je suis invité à une soirée SM Madame Loïc. On se fait enrouler dans une grande crêpe tandis que des gens se fouettent avec des pots d'andouille. Oh. Je rentre à l'hôtel, je dors quelques heures. À 5h30, il y a un premier con qui fait claquer la porte de sa chambre et réveille tout le couloir. Je me lève, je fais mon sport, 200 pompes, c'est-à-dire 2 pompes sans mes chaussures, et je me rends à la salle de petit-déj. Voilà, alors ça se passe à Quimper. Donc le petit-déj n'est pas un petit-déj normal. C'est une motte de beurre de 3 tonnes qu'on a répartie dans divers aliments. Du phare, du gâteau breton, du queen amang, il y en a partout. Je prends un kiwi, je l'ouvre, dedans il y a du beurre. Par terre, je vois des gens démembrés qui me disent on a glissé sur du beurre. La dame qui s'occupe du petit-déj me murmure à l'oreille, laissez-les, ce sont des Parisiens qui ont demandé du beurre doux, qui crèvent. Là, je m'assois, mon plateau fait 20 kilos puisque j'ai pris 2 parts de phare, et je me dis allez, on va essayer de vivre une bonne journée. Ce qui est illusoire puisque chaque jour passé nous rapproche de la mort. Je regarde par la fenêtre, il fait beau, des habitants de Quimper hébétés sont sortis observer l'astre solaire aperçu ici pour la dernière fois en 2006. Wow. Je me relaxe, je savoure mon café, un expresso au beurre, et là je réalise que dans la salle du petit-déj, il y a une télé, comme dans tous les hôtels de France, et comme partout elle est réglée sur BFM TV. Alors j'ai rien contre BFM TV, il n'y a plus que sur cette chaîne qu'on peut voir Alain Duhamel en veste couleur saumon, hein, tellement saumon que parfois on a l'impression que c'est un poisson qui cause. On se dit mais pourquoi ce saumon, au lieu de nous parler de sa haine des ours, qui leur file des coups de patte, puisque les ours sont les Will Smith du monde animal, hein, pourquoi ce saumon nous parle-t-il de Macron? Enfin bref. Donc je suis là au petit-déj avec d'autres, chacun tout seul à une table de deux. Et il y a BFM, dont le son doit être à 14 sur une échelle allant de 0 à 12. Un jour, quelqu'un a essayé de baisser le volume, mais la télécommande est en pleine de beurre. Bon, ses doigts ont glissé et au bout de 3-4 jours, il a abandonné. Au début, tout se passe bien. On voit des extraits du meeting de Macron qui décrit son quinquennat qui s'achève comme la plus belle chose s'étant produite en France depuis la création du pays. Hein, c'était la première fois que je voyais un homme se masturber pendant 2 heures sans les mains. Rien que par la pensée, c'est mesmer. Hein, le mec, c'est... Et l'avantage, bon, c'est qu'on salit pas son costume. Donc dans la salle du petit-déj, on se regarde tous un peu gênés. Une dame pudique se met à s'écraser du beurre dans les yeux en criant « Trop de désir, tu le désires !» C'est décidé, je vote Jean Lassalle. Puis le couple de présentateurs réapparaît à l'image et l'homme, le visage fermé, nous prépare déjà à ce qu'il va dire. Le monsieur qui, le soir du premier tour, viendra voir Hidalgo et Anne Hidalgo dans son QG situé au siège de Xanax pour lui donner son score, bon, fera la même tête. Et là, en effet, il parle de la guerre en Ukraine en disant « Les images qui vont suivre sont très dures. » Ce qui fait que dans la salle du petit-déj, tout le monde lève la tête. Parce qu'il suffit qu'on nous dise de ne pas regarder pour qu'on ait envie de le faire. Dans cette logique, si BFM avait voulu nous préserver, le journaliste aurait dit « Matez ces images, les loulous, c'est un ordre !» Et tout le monde serait retourné à son petit déj en disant « Je m'en fous, j'ai du beurre !» Et on voit donc des images de villes ukrainiennes détruites ? Non. Pillées ? Non. Anéanties par les Russes, avec au sol des cadavres étalés partout. La réalité de la guerre, en fait. Et je me suis surpris à regretter l'époque où dans les hôtels, on diffusait juste les compilations Bouddha Bar, des heures de musique lounge pourri. On se disait que Claude Chal, je lui pétais sa gueule. Parce que là, franchement, j'avais envie de vomir. Je l'ai pas fait, j'avais pas envie de mettre du beurre partout. Après, la question est-ce que la salle du petit-déj de l'hôtel Mercure de la carte de Quimper se prête à la diffusion d'images de massacre? Je ne sais pas. En fait, c'est la réalité. Mais partant de ce principe, demain au spa, on vous passera le documentaire Oradour sur Glane, Village Martyr sur RMC Story, tandis que des employés vous masseront avec des galets. Le fait d'avoir des télés partout fait qu'on ne décroche plus jamais de la réalité. Il n'y a plus de recul. Juste des images brutes diffusées dans tous les hôtels, restos, bars de France, puisqu'on ne sait plus boire ou manger sans regarder la télé. Mais au moins, foutez-nous petit plat en équilibre avec Laurent Mariotte, ça sera raccord. Plus de petits salés, moins de macabé. Non mais la réalité est partout. Vous savez, j'ai lu dans le métavers. Vous voyez le métavers, c'est une univers virtuel censé être plus fun que la vraie vie qu'on a. Hein, une association, eh bien, a créé un SDF, voilà, avec qui on peut discuter, entre un meeting avec l'avatar d'Éric Zemmour, où il crie, les avatars créés il y a moins de 5 mois seront raccompagnés en dehors du métavers. Ah bon, et un apéro avec l'avatar de Tex. Eh bien, pourquoi? Eh bien, pour sensibiliser à la condition des SDF, les vrais. Comme si, après avoir parlé avec le SDF virtuel, on allait se mettre à parler avec les véritables sans-abri. Alors que ce qui se passe dans le virtuel reste dans le virtuel. Quand moi, après avoir joué à Mario, je me suis mis en forêt à sauter sur tous les champignons, et ben, je me suis fait engueuler par les ramasseurs de cèpes. Voilà. Bref, tout est plombant. Hier, dans la salle du petit-déj, personne n'était vraiment content d'être là. Et pourtant, on avait du beurre.
Merci. Infinity ce soir sur Canal, la station internationale spatiale est victime d'un accident. Est-ce un attentat? Est-ce une erreur humaine ou un problème beaucoup plus profond et lointain? Toujours est-il que l'Américain qui a remplacé au pied levé Anna, jouée par Céline Salette, crie son nom au moment du choc et de l'accident, et de là découle toute une enquête en se demandant finalement celui qui l'a remplacé au pied levé, est-ce que c'était là aussi une manipulation ou pas? Est-ce que c'était une manière de l'envoyer détruire cette station avant l'heure, puisqu'on on se prépare à favoriser, oui, puis à favoriser le lancement privé, comme l'a dit tout à l'heure Dorian à ce micro. C'est Infinity, c'est ce soir sur Canal, et il y a 6 épisodes en tout, 2 par lundi ou l'intégrale sur MyCanal. Oui. D'autres événements culturels, Leïla.
On va parler d'une certaine Iris Knobloch. Mmh. Savez-vous de qui il s'agit?
C'est la nouvelle présidente de Cannes.
Absolument, elle remplace ainsi Pierre Lescure, un ancien de la bande originale. Elle est
pourquoi
allemande.
Pourquoi remplace Pierre Lescure d'ailleurs?
Parce que Pierre Lescure avait indiqué qu'il finissait son mandat là. Et qu'il fallait que quelqu'un prenne la succession. Il va quitter Pierre Lescure ses fonctions après le prochain festival qui aura lieu du 17 au 28 mai.
Donc là, c'est
cette
lui.
Année 2022, absolument. D'accord. Et dès l'année d'après, ce sera cette allemande Iris Knobloch qui était ancienne présidente de Warner Media France. Et qui va prendre sa succession pour continuer à faire de ce rendez-vous important du cinéma un rayonnement aussi planétaire.
C'est la première fois qu'il y a une femme, donc.
C'est la première fois, je pense, oui, en effet, qu'il y a une femme. Céline Salette, ça reste un rendez-vous incontournable. Cannes, est-ce que vous avez un souvenir particulier à partager avec nous? Cette année, ce sera Virginie Efira qui sera à la tête du jury, ça a été annoncé il y a peu.
Super.
De maîtresse de cérémonie, non?
Non.
Ah, maîtresse de cérémonie. Maîtresse de cérémonie.
Non, maîtresse de cérémonie, pardon. Ouais, je le.
Et oui.
S'enflammer, là. S'enflammer, je suis président du jury.
Mais je la vois bien,
un jour, oui, bien sûr.
Elle était président du jury à Venise.
Oui, à Mostra.
L'année dernière.
Ouais.
C'est magique, Cannes.
Ouais.
Pourquoi?
Bah, parce qu'on y était encore là avec Cannes Série pour présenter la série. C'est cette salle. Elle est phénoménale, cet écran, il est fou, le son est incroyable, la qualité de ce qu'on peut voir en termes de cinéma, c'est... Bon, c'est de la technologie.
Pardon,
c'est...
on n'a pas besoin d'aller à Cannes pour avoir une salle avec un bon son et une belle image. Il y a quelque chose qui...
Non, mais je ne sais pas comment dire. Dans les lieux, il y a aussi des fantômes. Savoir que dans cette, dans cette salle, des films immenses ont été projetés. Savoir que tous les jurys, les acteurs des différents festivals se sont assis dans ces sièges et les ont regardés. Il y a une dimension, c'est ça, elle est phénoménale, ouais. elle a une dimension folle.
Et le fait que tout le monde se retrouve concentré dans une ville...
C'est un temple, c'est comme un temple, ça fait comme un temple du cinéma, c'est une vraie célébration. Il y a bien sûr un petit peu de cirque, mais la vérité c'est que tous les gens qui sont là pour célébrer le cinéma.
Oui, mais on doit
le cinéma c'est un grand art.
On doit aussi croiser des gens que l'on n'aime pas. Vous ne pouvez pas aimer tout le monde dans ce milieu-là.
Tout le temps. Oui.
Et quand vous participez au festival, vous êtes plutôt du genre à vous lever très tôt pour assister aux séances.
Ouais,
comment
ouais,
vous, parce que tous les festivaliers n'ont pas le même emploi du temps.
Ouais, clairement. C'est sûr.
Les projets, il faut dire qu'on commence à 8h du matin.
Hein. Ouais, si on veut vraiment voir tous les films, on peut y passer la journée. En fait.
C'est vrai. Mais vous dites, oui, c'est vrai, on peut croiser. Mais il n'y a pas beaucoup. Franchement, on ne passe pas beaucoup de temps à ne pas aimer des gens, hein, y compris dans le cinéma. Je veux dire, il y a des gens avec qui on a plus ou moins d'affinité, mais. Je sais pas vous, il y a des gens que vous aimez pas et que vous croisez, ça vous arrive.
Enfin, moi, tous les jours, je viens ici. Hein.
Ah
tous les jours.
Non, mais c'est un grand rendez-vous. En vrai, tout le monde est très quand très rassemblés
quand on est sur,
par
l'amour du quand cinéma. Quand on est sur un tournage, ou nous aussi, quand on vient et on fait partie d'une émission, on se choisit, on se préempte les uns les autres. Là, dans un festival, qui existe d'ailleurs pour le monde du disque, avec le Midem au mois de janvier, ou avec le monde du cinéma, avec le festival du film, il y a un petit côté obligé. On n'a pas choisi l'équipe avec laquelle on va retrouver. Et puis, il y a même des plans de table qui peuvent être hasardeux quand il y a des soirées organisées par des distributeurs ou des producteurs.
Bien sûr, mais c'est toujours assez drôle. Bon, quand on se dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne que je connais pas et qui est assise à côté de moi, plutôt que de se dire, oh là là, c'est pas possible, je le connais pas, qu'est-ce que
non,
je
vais... Non, mais quand on la connaît pas, je suis d'accord, mais je parlais simplement d'inimitié ou de tension, mais il y en a pas, tant mieux.
Franchement, il y a pas beaucoup de gens qui passent leur temps à avoir des inimitiés avec d'autres gens.
Et c'est un rendez-vous à ce point incontournable pour y aller, même quand on présente pas un film? Est-ce que vous faites cette démarche-là?
Bien sûr, bah ouais, moi parfois je suis invitée, j'y vais, j'ai pas de film, et je suis trop heureuse de... avoir l'occasion de voir un film dans cette salle, et puis de voir les
et
films en sélection.
Ça peut apporter quelque chose, c'est-à-dire on peut avoir des contacts,
en général,
des propositions.
Ben j'en sais rien, je crois pas tellement à ça, mais ce qui se passe, c'est que rencontrer des gens, c'est toujours agréable, et puis voir du cinéma, c'est merveilleux.
Autre question, après Johnny Kenny West, Netflix va produire une nouvelle série documentaire sur une star de la musique. De qui s'agit-il?
Elvis Presley?
Non.
Michael Jackson?
Non.
Mick Jagger?
Prince?
Non plus. Alors, quelques indices.
Français?
Non, pas français. Pas français.
Anglais?
Paolo Conte, le mec qui va chercher
plus complexe.
Luciano
il
Pavarotti.
Il n'aime pas complètement sa voix.
YouTube.
YouTube, Bono.
Absolument, ouais. C'est YouTube.
Plus complexe qu'anglais.
Et irlandais, quoi. Tu vois, c'est pas exactement la même chose.
C'est vrai qu'il a déclaré ne pas aimer sa voix.
Qu'il détestait sa voix sur plein de titres, en fait, qu'il n'assumait complètement pas sa voix. Ça peut être étonnant. Vous avez quel rapport à votre voix, vous, Céline Salette, quand vous.
Super votre voix.
Vous écoutez, vous réécoutez, ou dans un film, ou dans une émission de radio.
J'ai un rapport encore un peu complexe avec moi-même. Je suis pas très. Je suis pas souvent amicale, mais je travaille dessus.
Ouais. Ça vient d'où? Ça vient de quoi, vous croyez?
Je sais pas. J'allais dire, c'est vrai, la plupart du temps, je pourrais faire des progrès. Non, mais quand je me vois jouer, par exemple, je vois que... Enfin, vous voyez, on voit souvent ce qui va pas, quoi. Et en général, je me focalise un peu là-dessus. Ensuite, je travaille dessus quand même, parce que c'est quand même pas très agréable d'être inamical avec soi-même. J'essaye de l'être beaucoup avec les autres, donc...
Pourtant, un réalisateur vous regarde, vous filme, et vous dit que là, c'est bien, et pour autant...
On parle même de désir.
Vous n'arrivez pas à vous dire que c'est OK.
Oui, mais c'est pas... C'est moi, j'aime raconter des histoires, et c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec me voir, quoi. Je considère que je suis pas obligée, mais en même temps, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Par exemple, mon réalisateur était trop heureux que je vois finalement la série dans cette grande salle à Cannes. Et puis, je vois surtout le travail des autres, en fait. Et ça fait du bien.
Pour en revenir au corps, l'entraînement que vous avez subi tout à l'heure, on évoquait les câbles. On n'a peut-être pas été très précis sur la manière dont vous avez recréé la pesanteur pour être dans cette station. Physiquement, on se rend pas compte. C'est vraiment éprouvant, ce sentiment d'apesanteur. C'est-à-dire, vous avez dit avoir travaillé les muscles profonds.
Oui, en fait, on passait des journées dans les câbles. C'est-à-dire qu'on était en baudrier câblé, combinaison de cosmonautes par-dessus la plupart du temps. Parfois même, pour les très gros plans, moi je portais 20 kilos d'armature avec la caméra dessus, donc je faisais aussi la caméra, quoi.
La combinaison, l'espèce de scaphandre comme ça, c'est anxiogène de se retrouver dans une espèce de...
Ça a pu l'être. On s'est vraiment posé les questions de comment faire pour que moi je puisse ouvrir le truc et fermer le truc de façon autonome.
Le truc, la visière?
Ouais, la visière.
Ouais.
Oui, parce qu'après, hop, c'est... Et puis surtout, les questions de buée et tout ça, mais après, c'est des choses qu'on a réglées petit à petit, oui.
Mais c'est lourd, c'est inconfortable
C'est pas lourd.
C'est une vraie combinaison que vous avez portée?
Non, c'est des reproductions.
D'accord.
Mais oui, il y a des très gros gants, quant à ça, tu peux rien faire, quoi. Et puis, en général, quand t'es dans les câbles, quand tu commences ta journée, que t'as mis ton baudrier, ta combinaison, tout ça, tu vas pas pisser toutes les 5 minutes, quoi. Donc, tu vas aux toilettes une fois le matin, et puis après, tu dis, hop, rendez-vous ce soir, allez, à tout à l'heure. Et puis, du coup, tu bois pas de la journée pour pas non plus réveiller le système. Bon, bref, c'est quand même assez contraignant.
Donc parmi, voilà.
C'était une petite pause toilette, je ne sais pas ce qui m'a pris.
Parmi les muscles, et parmi les muscles profonds qu'il fallait travailler, il y avait le périnée, donc ce détail était important.
Depuis j'aime qu'on ait évoqué mon périnée.
On en a tous un, nous,
c'est ça. On le travaille. Les garçons ne le savent pas souvent, mais vous en avez un.
Aussi,
faites attention si vous ne voulez pas porter des couches plus tard.
T'as raison. À part la projection ce soir, enfin la diffusion ce soir sur Canal Infinity, Céline Sallet, vous êtes depuis le 23 mars à l'affiche de Tropique de la violence de Manuel Scapira et vous venez de tourner l'histoire de Karine, le premier long métrage de Sylvie Gautier.
Oui, qui va s'appeler Brillante.
Non,
je vous en prie, vous ne pouvez pas le savoir. Moi-même, je ne le savais pas il y a très longtemps.
C'est l'histoire d'une famille illettrée, c'est ça ?
Alors, non.
Non.
C'est l'histoire d'une femme qui est illettrée.
D'accord.
Qui est illettrée ?
Illettrée, elle.
Ah, pardon, d'accord.
Et son fils, lui, non, il sait lire. C'est d'ailleurs pour ça que... C'est comme ça d'ailleurs qu'il l'aide. Il l'aide beaucoup. C'est un peu moins qu'une famille. C'est un duo. Et Karine, elle est avec une équipe. Elle fait des ménages et puis elle va avoir un accident avec son scooter. Et pendant une restructuration de l'entreprise, comme elle sait pas elle remplir le constat, sa boss va arriver. Et elle va se faire cramer. Parce qu'en fait, quand on sait pas lire, on est souvent, parfois enfermé dans les petits mensonges, des arrangements, quoi. Avec le quotidien, on se rend pas compte à quel point le fait de ne pas savoir lire nous plonge dans une forme de vie extraterrestre. Ouais, quoi. C'est-à-dire, c'est un autre monde, c'est une autre planète, quoi. Pas savoir lire, c'est pas avoir les codes de tout ce qui nous entoure.
Redonnez-moi le titre là.
C'est Brillante. Ça va, c'était Brillante.
Très bien. Et vous êtes en train d'écrire votre premier long métrage.
Oui, j'ai terminé le scénario.
D'accord. Bravo.
C'était
long, cet accouchement.
Ouais, ça a pris un an et demi. Bah, c'est le temps normal. Pour l'écriture d'un film.
Et le sujet est toujours Nikki
Chaffal. J'ai écrit avec Samuel Doux. Ouais, c'est un film sur Nikki qui raconte comment elle devient elle. C'est les 10 années avant qu'elle cartonne internationalement comme artiste. C'est comment elle est une mannequin issue de l'aristocratie franco-américaine, jeune mariée, jeune mère, et puis comment elle va devenir une des artistes les plus puissantes de son siècle. Elle disait je voulais le monde et à cette époque il appartenait aux hommes. Donc c'est un peu l'histoire de comment elle échappe à la domination et à quel prix.
Vous allez le réaliser ?
Oui.
Et vous allez le jouer ?
Non, c'est Charlotte Lebon qui va jouer Nikki.
Très bien. Des excuses à présenter, Morgane Cadignan.
Ouais, désolé pour les fans de Guillermo Guise qui ont bien compris, malgré son effroyable accent, qu'il avait annoncé que c'était sa dernière saison parmi nous. Alors, si vous voulez qu'il reste, c'est hyper simple. Vous boycottez toute sa tournée. Comme ça, il aura besoin d'argent et de boulot.
C'est pas con.
Et il sera obligé de rester. Désolé pour
Mais
les fans.
Il est obligé de rester.
Désolé pour les fans d'Alex Kominek. Et je vous promets qu'il y en a qui, après avoir entendu Nagui, s'attendaient à voir leur idole pleine de pecs et de muscles. Et ben non, sur les vidéos, ça se voit, c'est quand même beaucoup de grâche.
Ouais. Mais ça va pas.
Désolé pour Nagui, qui en plus d'imiter salement l'accent du Sud, a découvert ce matin grâce à Céline Sallet qu'on pouvait pleurer d'émotion devant la beauté d'un moment. Alors là, on part de loin. Déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de beauté autour de cette table. Et je crois que la dernière fois que Nagui a pleuré, c'est quand on a su qu'on recevait demain Jean-Christophe Ruffin et qu'il faudrait lire un livre. Courage, on y est presque.
C'est pas gentil. Mais pourquoi t'es méchante comme ça à la fin de l'émission d'un coup ?
C'est comme si c'était pas moi, je sais pas.
C'est ça.
Je suis possédée par un esprit malin.
Par Morin, c'est ça. Infinity, c'est ce soir sur Canal et l'intégrale est déjà sur MyCanal. Merci Céline Sallet d'être
venue à ce micro. Merci à vous, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de faire cette émission.
Et demain, c'est justement Jean-Christophe Ruffin, dont j'ai lu le livre avec plaisir. Et nous parlerons de ce nouvel épisode ce consul honoraire. Rendez-vous demain tout de suite des carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis.
Où allons-nous cette semaine ?
Alors, nous avons l'embarras du choix aujourd'hui entre les Landes et les Côtes d'Armor.
Les Landes.
Eh ben, ça tombe bien, on va commencer par les Landes.
Très bien. Les Landes, Canaboulali.
Voilà.
Bravo.
Infinity.